Donc effectivement, pour parler de l'actualité, donc professeur, vous allez nous dire où est-ce qu'on en est concrètement aujourd'hui. Alors vous êtes membre de l'Académie nationale de médecine, directeur scientifique de la Fondation, dont vous êtes aussi le cofondateur. Alors il y a eu des avancées importantes sur cette maladie d'Alzheimer, maladie que vous avez d'ailleurs qualifiée de maladie du siècle, je crois, si je ne me trompe pas, dans un ouvrage que vous avez écrit récemment.
Écoutez, bien ça. Merci beaucoup de commencer par ça, parce que c'était effectivement la première phrase que je voulais dire. Effectivement, d'abord, je vous remercie à tous d'être là, très nombreux. Ça fait toujours plaisir de parler devant un auditoire comble et intéressé. Bon, merci de votre présence et merci de votre introduction. Voilà, effectivement, c'est j'ai commis un petit livre il y a quelques années. Et le titre de ce livre, La vérité sur la maladie du siècle. Maladie du siècle, pourquoi ? Ça a déjà été abordé juste avant par Olivier de la Doucette. Eh bien, c'est uniquement lié à l'allongement de la vie. L'allongement de la vie, c'est une conquête, et il faut s'en réjouir. C'est la gloire de nos sociétés occidentales. Mais c'est aussi un défi, puisque, comme on va le voir, cette maladie, par sa fréquence, met en tension, je dirais, le système social. Alors, il faut se rappeler qu'au début du 19e siècle, l'espérance de vie d'un enfant était de 40 ans. De 40 ans au début du 19e siècle. Aujourd'hui, il est de 85 ans. Vous voyez, c'est considérable. Et il faut savoir que si une petite fille naît aujourd'hui, je vous le souhaite d'avoir une petite fille qui naît aujourd'hui, son espérance de vie sera de 90 ans et elle aura 4 chances sur 10 de développer la maladie d'Alzheimer dans sa vie, puisqu'à 90 ans, 40% des gens sont touchés par cette maladie. Ce qui veut dire qu'il y en a quand même 60% qui ne sont pas touchés par cette maladie à 90 ans. Ce n'est pas une maladie inéluctable. Elle n'est pas due à l'âge. Elle est liée à l'âge. Elle est d'autant plus fréquente que les gens vivent longtemps. Mais ce n'est pas inéluctable. C'est un point important. Donc c'est une maladie de la personne, ça a été rappelé, mais aussi de la famille et de la société, dont la fréquence augmente de façon exponentielle avec l'âge, devenue aujourd'hui un problème majeur de santé publique ces 20 dernières années en raison du vieillissement incroyable de la population au cours de ces 40 dernières années. C'est très très important et donc la maladie devient naturellement fréquente aujourd'hui. Alors ce que je voudrais faire, si vous voulez, c'est dans un premier temps vous rappeler ce qu'est la maladie d'Alzheimer, je vais partir de la description initiale, et puis je voudrais vous montrer 5 ou 6 ou 7 progrès majeurs qu'il y a eu au cours de ces 30 dernières années, même 20 dernières années. C'est très, très spectaculaire et, à mon avis, impressionnant. Alors, on part de quoi ? On part de la rencontre entre Alois Alzheimer et cette femme, Auguste D., qui est à l'origine de la description par Alois Alzheimer, de la maladie qui porte maintenant son nom. Et je vais simplement, pas décrire la maladie, mais vous expliquer en quoi cette description est importante. Elle est importante, à mon avis, à deux niveaux. D'abord, parce qu'il a eu l'intelligence de rapprocher un ensemble de signes, de symptômes, à des lésions. Donc, c'est un concept, et on en reparlera peut-être dans les questions après, qui est clinico-pathologique. Il y a un syndrome clinique, et d'un autre côté, en face de ce syndrome clinique, on a des lésions dont il a considéré qu'elles étaient responsables des symptômes. Alors, quels sont ces symptômes ? Ces symptômes, ce sont des troubles cognitifs, ce sont des troubles comportementaux, ce sont des troubles psychiatriques. Il y a notamment de l'agitation, de l'irritabilité, de la paranoïa, donc des troubles psychiatriques. J'insiste là-dessus pour vous dire que cette observation, qui est très importante puisque la définition est clinico-pathologique, c'est aussi la première fois, avec Alois Alzheimer, que l'on rapporte, que l'on rattache des symptômes psychiatriques, mentaux, je vais dire, à des lésions du cortex cérébral. Donc on fait, si vous voulez, de ce trouble comportemental et psychiatrique, on en fait une réalité biologique, on incarne dans une certaine mesure les troubles mentaux à un dérèglement du cerveau. Donc c'est historiquement, à mon avis, une étape importante dans l'histoire de la médecine, cette description. Alors revenons à la maladie d'Alzheimer. Alzheimer, quand il décrit cette observation. Il l'a décrit chez une femme de 52 ans, et comme vous le savez peut-être, cette maladie était initialement réservée à des patients jeunes. Et nous, il y a peut-être quelques médecins dans la salle, mais les plus anciens médecins d'ici, s'ils sont là, se rappelleront qu'ils ont appris que cette maladie d'Alzheimer touchait des sujets jeunes. Et on appelait cela la démence pré-sénile pour la différencier de ce qu'on observe chez les gens âgés, ce qu'on appelait le gâtisme, qu'on appelait la démence sénile. Et à partir du milieu dans les années 76 précisément, donc il y a quelques années, un médecin américain a dit, mais finalement, ces deux états, c'est-à-dire la maladie d'Alzheimer d'un côté, du sujet jeune, avant 65 ans, et la démence sénile d'un autre côté, mais finalement, c'est la même maladie, puisque c'est les mêmes symptômes, c'est les mêmes lésions qu'on observe dans le cerveau des patients, c'est les mêmes déficits biochimiques qu'on observe. Donc pourquoi, finalement, dissocier et isoler une forme pré-sénile de la forme sénile? Et donc, ils ont décidé de rassembler l'ensemble de ces maladies sous le même vocable, parce que c'est la même maladie, et c'est la raison pour laquelle on parle de maladie d'Alzheimer, même chez les personnes âgées. Donc, ça vous explique que parfois, vous êtes un peu surpris quand vous avez un de vos parents qui est âgé et qui a des troubles, un peu de gâtisme, que le médecin parle de maladie d'Alzheimer. Ben oui, c'est une maladie d'Alzheimer. Et c'est la raison pour laquelle cette maladie, qui était au départ une maladie rare, est devenue une maladie extrêmement fréquente, puisqu'on a inclus dans le cadre de la maladie, évidemment, des patients âgés. Voilà, donc ça, ce petit rappel historique pour vous dire qu'au départ, c'était une démence. C'est-à-dire, en médecine, le terme est malheureux, mais la démence, ça ne veut pas dire les gens qui perdent la tête et qui sont fous, qui déraisonnent. Pour nous, médecins, la démence, c'est simplement des gens qui ont perdu leur autonomie. Vous êtes autonome, nous sommes autonomes. Je suis venu de Paris sans difficulté, seul. J'ai pris le train, j'ai pris le taxi, je suis arrivé ici. Je suis autonome dans mes déplacements. Un patient qui n'est plus autonome, un patient qui a besoin d'être aidé dans les transports ou qui a besoin d'être aidé pour prendre ses médicaments ou qui a besoin d'être aidé pour gérer son budget ou pour téléphoner, etc., eh bien, c'est quelqu'un qui, dans une certaine mesure, n'est plus autonome et qui devient un peu dépendant. Et c'est cette dépendance qui traduit, pour le médecin, le seuil de la démence. Voilà. Donc, c'est ce petit rappel historique, vous voyez, est important pour expliquer d'où on est parti, du concept d'une démence pour caractériser la maladie d'Alzheimer, qui était au départ une maladie du sujet jeune et qui maintenant englobe l'ensemble des sujets qui ont cette maladie. Alors, je vous ai dit que je voulais vous parler des recherches. Eh bien, c'est la deuxième partie de mon exposé. Je vais vous dire combien on a avancé au cours de ces 20 dernières années. On a avancé peut-être un tout petit peu plus, 30 années, voilà, pour un certain nombre de raisons. La première chose, c'est que grâce à des travaux qui ont été réalisés par un Allemand qui s'appelle Dr Brack, on a pu caractériser l'histoire naturelle de la maladie. La maladie d'Alzheimer, ce n'est pas n'importe quoi. Il n'y a pas, comme on l'a dit à une époque, autant de maladies qu'il y a de malades. Non, 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 non. C'est une maladie qui est relativement stéréotypée, qui commence ici. Alors, je pense qu'il doit y avoir un pointeur. Oui. Qui commence ici, qui commence, voyez, au niveau, on ne le voit pas bien, mais qui commence au niveau de l'hippocampe, c'est-à-dire, vous voyez, à gauche, cette petite boule grise que vous avez, et qui va rester assez longtemps localisée au niveau de l'hippocampe. L'hippocampe, qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'hippocampe, c'est un peu la porte qui ouvre la banque du cerveau. Donc, quand on a une maladie de l'hippocampe, on ne va pas pouvoir rentrer les informations dans le cerveau. On les perçoit, on les voit, on les entend, mais quand il faut les envoyer dans le cerveau pour les mettre dans la banque, eh bien, à cause de la maladie de l'hippocampe, eh bien, ça ne va pas pouvoir rentrer. Donc, on perd l'information, on ne peut pas la transformer en souvenir. Alors, ça, c'est l'hippocampe. Vous voyez, pendant quelques années, la maladie va être localisée au niveau de cette région du cerveau. Et puis, secondairement, il va y avoir une diffusion des lésions à l'ensemble des régions du cerveau, des régions corticales, pour rejoindre ce que Alzheimer a trouvé lorsqu'il a examiné la patiente et qu'elle avait une démence. Eh bien, à partir de là, nous avons proposé, nous, que l'on pouvait dissocier la maladie en deux phases. une première phase qui est la phase de troubles de mémoire relativement isolés, ce qu'on appelait la phase prodromale, qu'on pourrait appeler la phase, vous voyez, où il y a un syndrome amnésique, où il y a des troubles de mémoire relativement isolés, et puis une deuxième phase qui est liée à la diffusion des lésions à l'ensemble du cerveau et qui s'accompagne des troubles du jugement, des troubles du langage, des troubles des gestes, des troubles de la reconnaissance des visages, la désorientation dans le temps et dans l'espace, etc., des troubles psychiatriques, et donc qui va déboucher sur la démence. Voilà. Donc les deux phases, phase prodromale et phase de démence, voilà, vous voyez, la modernité de cette maladie, on n'est plus, c'est plus une démence, on dit qu'on peut la reconnaître plutôt à ce stade de troubles de mémoire. Et quand on dit ça, évidemment, il y a un certain nombre de gens dans la salle qui s'inquiètent parce que, eh bien, à partir d'un certain âge, on a tous des inquiétudes sur la mémoire. Donc, vous vous dites, mais est-ce qu'il est en train de me dire que moi qui ai des troubles de mémoire, j'ai un début de maladie d'Alzheimer ? Eh bien non, justement. Justement parce que les troubles de mémoire que nous avons tous à partir d'un certain âge, quand nous avons des cheveux blancs, si nous en avons encore, eh bien, à partir de ce moment-là, ces troubles de mémoire sont souvent des troubles de l'attention. D'accord ? C'est-à-dire qu'on ne fait pas attention aux choses sans importance, et il est normal qu'on ne se rappelle pas l'emplacement de ses lunettes, l'emplacement de son journal, l'emplacement de ses clés. C'est quelque chose de tout à fait banal, et moi, je passe mon temps, comme je dis, à faire de la recherche. Vous avez compris. Je fais de la recherche. Bon. Et je pense qu'il y a un certain nombre d'ici qui sont aussi des chercheurs, non ? Hein ? Voilà, je vois que... Voilà, nous sommes entourés de chercheurs. Voilà, ben voilà, on passe notre temps à chercher. Et je voudrais juste vous donner quand même cette image qui est intéressante et qui va vous rassurer. Vous avez sur cette courbe, vous voyez sur cette slide, deux courbes. C'est la courbe, si vous voulez, de l'intensité de la plainte. Les gens qui se plaignent, comme vous et moi, on se plaint de notre mémoire. Alors vous avez, vous voyez, un barème, qu'importe, vous voyez, plus c'est haut, plus on se plaint, en gros. Et vous avez deux courbes. Vous avez la courbe, vous voyez, en haut, de sujet, la courbe marron, on va dire, qui sont des sujets qui se plaignent beaucoup. Ils se plaignent beaucoup, et ce qui est intéressant, c'est ce sont des sujets qui étaient dépressifs. C'est une étude qu'on a faite à la Salpêtrière. Des sujets qui étaient dépressifs. Ils avaient une dépression. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils avaient un MMS, qu'importe ce que ça veut dire. Le MMS, en gros, c'est le thermomètre pour la mémoire et pour la cognition, pour le fonctionnement intellectuel. Eh bien, normalement, il est de 30 sur 30. Bon, on a tous dans la salle entre 29 et 30. C'est bête comme chou, hein, ce test-là. Eh bien, ce sont des sujets qui se plaignent beaucoup. Ils sont dépressifs, ils se plaignent beaucoup, et leur MMS est à 29 en moyenne, d'accord ? Et puis vous avez en bas une c'est même pas une courbe, c'est une plate, hein, c'est une droite plate, hein, et ce sont des sujets, vous voyez, qui ne se plaignent pas, ils se plaignent vraiment pas du tout. Et alors si vous voyez, pour ceux qui sont proches de l'écran, ils peuvent voir le MMS de ces sujets qui ne se plaignent pas est en réalité de 20. Donc c'est paradoxal, ils se plaignent pas, et c'est eux qui ont des troubles. Alors que ceux qui se plaignent n'ont pas de troubles. Et ce qui m'avait fait dire, à la fin des années 90, une phrase qui rassure généralement quand on fait cet exposé, plus on se plaint de sa mémoire, moins on a de chances ou de risques d'avoir la maladie d'Alzheimer. Voilà. Et là, il y a généralement un petit moment de détente. Voilà. Ah, très bien. Voilà. Mais c'est important de bien comprendre, si vous voulez, et c'est toute la difficulté que nous avons, médecins, de faire la part des choses, voyez. Et c'est pour ça qu'on a mis au point des tests et qu'on a compris comment fonctionnait la mémoire. La mémoire, si vous voulez, pour qu'une information soit rentrée et restituée, il faut qu'elle passe par trois boîtes différentes. Il faut d'abord qu'elle soit saisie par nos systèmes perceptifs, comme je vous l'ai dit, par la vue, l'audition. Il faut qu'on entende, qu'on voit bien. Si on est sourd ou aveugle, on ne pourra pas garder l'information. Bon. Alors, ou si on est fatigué, ou si on est dépressif, parce qu'on ne va pas bien faire attention, si on est surstimulé, si on est anxieux, si on a d'autres préoccupations dans la tête, on ne va pas bien fixer l'information. Bon. Et une fois que cette information a été fixée par le système perceptif, elle est envoyée comme un ballon de rugby vers l'hippocampe, dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'hippocampe qui, lui, c'est cette petite boule, vous voyez, bleue, qui, lui, va ouvrir la porte du cerveau. D'accord ? Et si l'hippocampe est cassé, l'information qui a été perçue n'est pas stockée dans le cerveau. Donc, l'information est perdue, elle n'est pas gardée dans le cerveau. Et donc, après, quand on demandera à la personne de rappeler l'information qui lui a été donnée, eh bien, il peut rien rappeler, ou il rappellera peu de choses parce qu'il n'a pas bien enregistré d'informations. Donc, premier cas de figure, Alors, maintenant, admettons que la saisie soit parfaite. Admettons que l'hippocampe fonctionne bien. C'est dans le cerveau. Troisième cas de figure, il faut aller le récupérer. Et c'est ce qu'on appelle le syndrome du bout de la langue. Je sais que je sais, c'est toujours comme ça, il me demande, et puis voilà, ça ne va pas venir, mais quand je vais sortir de la pièce, ça va me revenir. Voilà, le syndrome du bout de la langue, qui est un phénomène tout à fait banal, je vois qu'il y en a beaucoup qui non seulement cherchent, mais aussi ont un peu quelque chose sur le bout de la langue. Et donc c'est tout à fait banal, c'est tout à fait banal, et ça se voit surtout au cours du vieillissement. Donc le métier du médecin, c'est de faire la part entre est-ce que c'est un trouble de la dépression, un trouble de l'encodage, est-ce que c'est un trouble du milieu du stockage ou est-ce que c'est un trouble de la récupération. Et on a mis au point des tests qui nous permettent de faire la part des choses. Ce qui veut dire que quand vous avez, vous, des plaintes importantes, quand vous trouvez que vous cherchez vraiment beaucoup et que vous êtes inquiet, eh bien vous pouvez toujours aller voir un médecin. Nous en avons ici un représentant qui va nous parler après, qui est en consultation de mémoire, qui travaille en consultation de mémoire aux hôpitaux civils de Lyon. Eh bien, n'hésitez pas à consulter votre neurologue, n'hésitez pas à consulter votre médecin, et il vous pourra faire la part des choses avec des tests parfois extrêmement simples. Alors ça, c'est la première information. Vous voyez, on progresse, là, on fait de la bonne médecine, là, hein. Je vois que vous suivez, c'est bien. La deuxième information qu'il faut que vous sachiez, qui est considérable, à mon avis, change tout, c'est que depuis un peu plus de 10 ans, les lésions de la maladie peuvent être identifiées du vivant du patient. Quand je reviens à ma première diapositive avec Aloïs Alzheimer, les lésions, on ne les avait que en coupant le cerveau des patients. Et pendant un siècle, on ne pouvait pas faire de diagnostic de certitude parce qu'on n'avait jamais accès à cette information du vivant des patients. Maintenant, si on peut repérer les lésions, soit par un PET scan, comme ça, en injectant une substance qui vient se fixer sur les lésions de la maladie. Vous voyez à droite, vous voyez les lésions de la maladie en rouge. Soit par une ponction lombaire qui vient récupérer le liquide céphalo-rachidien et qui nous donne des informations sur ce qu'il y a dans le cerveau, soit même aujourd'hui, peut-être, dans le sang. Et on est en train de travailler là-dessus à la Salpêtrière, peut-être à Lyon aussi, certainement, sur la possibilité d'identifier, grâce à des machines très sophistiquées, des changements biologique dans le sang qui reflèterait l'activité cérébrale. Donc ces biomarqueurs, bien sûr, améliorent considérablement le diagnostic, puisque vous avez suivi Alzheimer clinico-pathologique. Maintenant, avec ces biomarqueurs, on a la possibilité de faire le diagnostic clinico-biologique. On a le syndrome clinique, avec justement ce syndrome amnésique dont je vous ai parlé, et maintenant la biologie qui nous certifie que les troubles sont bien en rapport avec la maladie d'Alzheimer. Quatrième avancée considérable, ces fameux biomarqueurs nous permettent maintenant de tester l'efficacité des médicaments, puisque vous avez vu cette diapositive où on voit les lésions dans le cerveau. Eh bien, on va pouvoir voir chez des patients traités si les lésions du cerveau, je vous les remontre rapidement, c'est-à-dire celles-là qui sont à droite, voyez, si ces lésions à droite là, dans le cerveau diminuent sous l'effet des traitements. Eh bien oui, aujourd'hui, les trois derniers médicaments qui ont été développés dans cette maladie montrent un effet absolument incroyable, puisque vous voyez que par rapport au niveau de départ, qui est à peu près au niveau de 100, eh bien, et vous avez après la durée, en fonction de la durée du traitement, ce sont des études qui durent un an et demi, toutes, elles durent un an et demi, eh bien, vous voyez qu'à partir d'un an, c'est-à-dire le deuxième point, il faudrait... des lésions ont disparu. Non, mais vous avez compris. Allez, voilà, les gens ont vu. 80%. Attendez, je vous demande de bien réfléchir. 80% des lésions ont disparu du cerveau. On a aujourd'hui des médicaments qui nettoient 80% des lésions amyloïdes du cerveau. C'est complètement dingue. C'est un résultat incroyable. 80% des lésions. Alors, à tel point d'ailleurs que les laboratoires qui développent le donanemab, le dernier, à tel point que ce laboratoire a décidé de faire une investigation après un an de traitement, parce qu'il dit que s'il n'y a plus de lésions dans le cerveau, à quoi ça sert de continuer à traiter avec les médicaments s'il n'y a plus de lésions dans le cerveau. Alors, on va me dire, ça y est, c'est gagné, c'est du bois, merci, bravo, c'est fini, voilà. Mais non, malheureusement, on n'a pas un effet comparable sur les symptômes. Pour quelles raisons ? On en discute, mais probablement parce que les patients qui étaient inclus dans ces études étaient trop avancés dans leur maladie. Et depuis que, grâce à la description des stades précoces, donc depuis cela, on a la possibilité maintenant d'inclure dans ces études des patients relativement plus précoces. Et pour la première fois, on vient d'avoir un effet significatif sur les symptômes. Alors, vous avez deux courbes. Regardez bien, il y a celle, la verte et puis la noire. D'accord ? Donc, la noire, c'est la pente d'aggravation des gens sous placebo. Et vous avez la verte, qui est moins importante, la pente est moins forte, c'est celle des gens qui sont sous le traitement. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que dans les deux cas, ils s'aggravent. Donc, ça veut dire que ces médicaments n'empêchent pas l'aggravation de la maladie, mais ils ralentissent le processus pathologique. Et l'idée que l'on a, c'est que si vous avez... Vous voyez cet effet, il y a une sorte de divergence des courbes. C'est un effet qu'on a à un an et demi. Il est probable que si on prolonge le traitement, on puisse augmenter encore cette amplitude et qu'on ait une amplitude d'effet qui soit d'autant plus importante que l'on prolonge le traitement. Voilà. Voilà où on en est avec le lecanemab. Ce médicament a eu l'autorisation de la FDA américaine. Le dossier est déposé en Europe. On saura probablement au début d'année prochaine s'il va être disponible. C'est pas la panacée, parce que vous voyez qu'il n'empêche pas l'aggravation, c'est-à-dire que les gens vont continuer à s'aggraver. C'est un médicament qui a des effets secondaires importants, donc il faut savoir que Alors, je crois qu'il faut que j'avance un peu. Cinquième ou sixième information considérable, c'est aujourd'hui, on sait que les lésions de la maladie précèdent la survenue des symptômes. Grâce à ces biomarqueurs, on se rend compte qu'il y a des gens âgés, normaux, comme certains d'entre vous et comme moi, qui ont les lésions, mais qui n'ont pas les symptômes. Et on a même mesuré que les lésions pouvaient être présentes, en gros, entre 10 à 15 ans avant la survenue des symptômes. D'où l'idée que l'on voit apparaître, c'est que, finalement, je vous ai décrit au départ la première période, qui est la période de démence. Puis je vous ai dit, on peut décrire une période avant, qui est la période prodromale. Ce sont des gens qui sont malades, mais qui sont au début de la maladie. Et maintenant, on dit, attention, il y a une troisième période, qui serait la période préclinique, c'est-à-dire des gens qui seraient normaux. Et donc, vous voyez qu'on est en train de décrire trois stades différents, avec des profils cliniques différents, mais qui ont tous la même signature biologique, la présence des lésions qui sont des succès d'années, des lésions, qui ont des biomarqueurs qui sont des reflets des lésions. Donc, vous voyez, tous ces trois stades ont en commun d'avoir des biomarqueurs présents. Alors, il y a un intérêt majeur maintenant pour ces états précliniques, puisque, et là, on est vraiment dans la modernité, on est même dans la science-fiction, puisqu'on se dit, et je résume la problématique, si ces médicaments nettoient les lésions, et si les lésions sont présentes avant les symptômes, eh bien, utilisons ces médicaments avant les symptômes pour nettoyer les lésions et retarder l'entrée dans la maladie. C'est bête comme chou. Voilà. Et voilà l'enjeu aujourd'hui, c'est de faire une sorte de prévention pharmacologique et dire qu'on doit pouvoir repérer des gens qui ont des lésions avant qu'ils aient les symptômes pour leur permettre de bénéficier de ces médicaments. Alors, on a travaillé, nous, sur cette problématique, et c'est un peu plus compliqué, puisqu'on a montré que sur un certain nombre de patients, c'est 88 qu'on a suivis qui avaient des lésions dans le cerveau et qui étaient absolument normaux, seuls 16 après 7 ans ont évolué vers la maladie d'Alzheimer. C'est-à-dire qu'on en a 88 qui ont des lésions, on les suit, 7 ans après, ils ont 83 ans, il n'y en a que 16 qui ont développé la maladie. Donc ça veut dire que 72 n'ont pas développé. Donc ça veut dire que ça ne suffit pas d'avoir les lésions. C'est nécessaire, mais peut-être pas suffisant. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Donc nous nous mobilisons aujourd'hui pour créer ce que j'appelle des centres de prévention du vieillissement cognitif, c'est-à-dire de mieux comprendre les enjeux scientifique pour pouvoir repérer les gens qui sont réellement à risque de développer la maladie. Les biomarqueurs ne suffisent pas. Il y a probablement d'autres facteurs qu'il va falloir identifier. Et je pense que c'est ce vers quoi il faut aller, parce que, premièrement, c'est un problème de santé publique. Deuxièmement, on a des marqueurs diagnostiques aujourd'hui. Troisièmement, on sait que la prévention commence à être efficace. Et il y a surtout l'idée de cette prévention pharmacologique dont je viens de vous parler. Les traitements arrivent, on en a parlé, et on a montré que si on arrivait à retarder, ne serait-ce que de 5 ans, le début de la maladie, on diminuerait de 50% sa prévalence. Donc, voilà la dernière diapositive. Pour moi, l'avenir, c'est, au niveau de la recherche, prendre des sujets normaux ou des sujets à risque ou des sujets au stade précoce de la maladie. Et la recherche doit financer des cohortes pour établir des bases de données et voir comment ces gens évoluent pour pouvoir déterminer les algorithmes de progression. Il y en a qui vont évoluer dans la maladie d'Alzheimer, d'autres qui vont évoluer dans d'autres choses. Et avec toutes les informations que l'on aura, on pourra connaître précisément l'équation qui détermine la survenue de la maladie. Et à partir de cette équation, dans les centres de prévention du déclin cognitif, on aura des sujets qui viendront nous voir, comme vous et moi, et qui voudront qu'on évalue leurs risques personnels, personnalisés. Et on pourra, à partir de là, en fonction de l'intensité de leurs risques, faire des interventions ciblées, soit en agissant sur des facteurs de risque modifiables, soit en proposant ces fameux médicaments dont je vous ai montré qu'ils nettoyaient les lésions, si on a établi formellement qu'ils sont à très haut risque de développer très vite la maladie, parce qu'il n'est pas question d'utiliser ces médicaments si les patients ont un risque faible, parce que ces médicaments ont des effets secondaires. Voilà, en gros, vous voyez, c'est dense. Hein, mais là, vous êtes absolument au point de la recherche aujourd'hui. Donc, on part d'une maladie décrite par Alzheimer il y a maintenant un peu plus d'un siècle, qui est une démence avec des lésions spécifiques. Et petit à petit, vous voyez, on est arrivé, grâce aux biomarqueurs, à pouvoir identifier ces lésions sur des stades précoces, qui a permis de développer des médicaments qui marchent, un peu, mais qui marchent. Et c'est le début de quelque chose. Et aussi de repérer peut-être des sujets à risque. Et c'est toute la question, à mon avis, de demain. C'est de suivre ces patients, de déterminer quel est le réel risque pour pouvoir leur faire bénéficier de ces médicaments secondairement.
Un grand merci, professeur. Je vais vous inviter. Le micro arrive. Juste là, devant, là-bas. Juste là. Là-bas. Il y a déjà une première question. Bonjour.
Bonjour. Merci, professeur, pour cette passionnante conférence. Je reviens sur l'état préclinique que vous avez décrit. Est-ce que associé au peut-être, et c'est une première question, aux facteurs génétiques, mais est-ce qu'associé à ces facteurs, il y aura un intérêt à diagnostiquer les enfants de patients porteurs d'Alzheimer et donc est à faire une prévention?
Très bien. Alors, en réalité, non, parce que la maladie d'Alzheimer n'est pas une maladie génétique. Ce n'est pas une maladie génétique. Elle est exceptionnellement génétique, mais exceptionnellement, c'est-à-dire 0,3% des cas. Et tous les cas sont maintenant identifiés parce qu'ils sont très lisibles. Ce sont des gens qui ont la maladie avant 55 ans, c'est-à-dire très tôt, et on retrouve forcément chez un père ou chez la mère la maladie, puisque c'est une maladie qui est transmissible quand elle est génétique. Donc ce sont des cas qui sont exceptionnels et qui sont tous identifiés. Donc il n'est pas nécessaire de faire une enquête génétique lorsque quelqu'un a la maladie d'Alzheimer dans la famille. Non, avoir une maladie d'Alzheimer dans une famille, on l'a tous plus ou moins. Je pense qu'on a tous une grand-mère ou un parent ou un oncle ou une tante qui a eu ou qui a la maladie d'Alzheimer. C'est un phénomène qui est relativement banal et qui est simplement le fait du vieillissement de la population et du vieillissement à l'intérieur des familles. Si vous regardez l'âge l'âge moyen dans les années 60, l'âge moyen était aux alentours de 65 ans. Donc la maladie n'existait pas. Elle n'existait pas. Et puis, on a énormément gagné par le contrôle de l'hypertension artérielle, la lutte contre les facteurs de risque vasculaire. On a supprimé un certain nombre de maladies qui tuaient vers 60-65 ans. Et donc, on a permis aux gens de vivre et d'arriver à l'âge où cette maladie devient naturellement fréquente. Et nous allons tous, là, nous, tous, main dans la main, vers l'âge où cette maladie devient naturellement fréquente.
Alors, il y a une deuxième question. Juste deuxième rang, madame.
Merci. Bonjour, docteur. Oui, vous parlez beaucoup des effets secondaires des traitements. Donc, est-ce qu'en la matière, il y a des espoirs de... Je suppose que la recherche travaille aussi dessus, mais donc, est-ce qu'il y a quelques espoirs d'amélioration de ces effets secondaires aussi, s'il vous plaît?
Merci de cette question. Je crois que vous avez raison de l'aborder parce que la question se posera, je sens qu'il y a un peu d'excitation aujourd'hui autour de ces médicaments et d'espoir tout à fait justifié avec l'idée que ces médicaments vont arriver. Il faudra être très, 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 très attentif et bien comprendre les enjeux. Premièrement, on donnera des médicaments qui aggravent les gens, puisque les gens sont aggravés avec le traitement. C'est-à-dire que vous venez me voir, je vous dis, je vous prescris un traitement, sachez que votre patient sera aggravé avec ce traitement, puisque vous avez compris que ça n'arrête pas l'aggravation, mais il s'aggravera moins que s'il ne prenait pas le traitement. Donc c'est un concept difficile à comprendre. On prescrit un médicament sachant que, bon, c'est ce qui se passe pour le cancer aussi, hein, ce sont des situations que l'on connaît en médecine. On ralentit un processus, mais on ne le guérit pas, on ne bloque pas le processus. C'est la première chose. Deuxièmement, à cause des effets secondaires, on va être contraint de soumettre la personne à des examens réguliers, notamment des IRM assez régulières, parce qu'il peut y avoir des effets secondaires cérébraux que l'on observe avec ces traitements. Troisièmement, il faut le savoir, il y a eu 4 morts parmi les 4000 patients qui ont été traités avec ces fameux médicaments dont je vous ai dit combien ils étaient merveilleux. Donc il faut relativiser l'impact qu'ils vont avoir. Il faudra être très, très, très prudent dans nos choix, parce qu'on exposera des patients relativement jeunes, au début de leur maladie en tout cas, à des risques qu'il faudra qu'ils soient partagés et par le médecin et par les familles.
Merci beaucoup. Nous avions une troisième question, je crois, au fond de la salle.
Oui, je fréquente un laboratoire d'analyse et il y a une superbe affiche incitant les gens à venir se faire tester pour essayer de savoir s'ils ont la maladie d'Alzheimer. Est-ce que vous pensez que c'est une offre sérieuse qui est faite lorsqu'on a ce genre d'affiche dans un laboratoire, compte tenu de ce que vous avez dit sur les différentes échelles de recherche?
Merci beaucoup pour cette question, cher monsieur. Je suis scandalisé, je vous le dis. Je suis inquiet, en tout cas, très inquiet, par le développement de ces techniques, d'abord qui ne sont, dans la plupart du temps, pas validées. Il faudrait savoir si la technique est validée. Enfin, il n'y a pas aujourd'hui, en tout cas, de recherche, dans le sang, en tout cas, qui soit validée et autorisée en France. Première chose. Deuxième chose, on va vous donner, à ce moment-là, une information, alors que la personne est parfaitement normale. On va lui dire, voilà, vous avez des résultats qui sont compatibles avec une maladie d'Alzheimer. Et boum, on lance ça à un sujet qui est parfaitement sain. On n'est pas sûr de la qualité du résultat. Et le fait même, et vous avez bien compris, le fait même d'avoir un résultat positif ne détermine absolument pas que vous allez développer la maladie. Donc vous donnez une information qui n'est pas contrôlée et une information qui ne signifie rien, car on ne sait pas ce que ça veut dire aujourd'hui que d'avoir les lésions de la maladie d'Alzheimer quand on est sain. Vous l'avez compris, on ne sait pas. Je ne sais pas quoi dire. Si quelqu'un venait me voir avec un résultat positif, je lui dirais que je ne sais pas ce que ça veut dire. Je n'ai pas la clé de lecture de ce résultat. Donc c'est la raison pour laquelle on s'oppose totalement à ce développement de ce genre de technique qui ne peut se faire que dans le cadre de la recherche, mais en aucun cas comme ça, de façon, je dirais, non contrôlée, si vous voulez. Et en plus, il faudrait que cette information soit médiée par un médecin pour que le résultat soit au moins expliqué par un médecin compétent et qui dise, bon, voilà, vous avez ce résultat, mais sachez que dans 80% des cas, ça ne va pas déboucher vers une maladie. Enfin, il faudrait relativiser l'importance du résultat. Donc, merci de cette question. Surtout, ne vous faites pas faire ce genre d'investigation, sauf si le médecin vous le recommande, parce qu'il considère que vous avez des symptômes qui posent la question de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Mais quand on n'a pas de symptômes, il ne faut surtout pas se faire faire ces investigations.
Eh bien, merci, professeur, encore. Et puis, nous allons poursuivre ces entretiens. Merci. Encore merci.